Le Lean Six Sigma, une synergie de l'amélioration continue. Article basé sur les fiches outils focus du Lean Six Sigma par Romain Aignan et Anissa Maclouf. Comme son nom l'indique, la méthode du management Lean Six Sigma combine deux approches de gestion d'entreprise similaires sur le fond et complémentaires dans la forme. Le management Lean, ses principes et outils que nous avons déjà évoqués, et le management Six Sigma. Ce dernier, initié dans les années 80 au sein des usines Motorola, puis repris par General Electric et de nombreux autres grands groupes, tire son appellation des niveaux de variation de la qualité, de la conformité, représentés par un sigma, acceptable ou pas dans la production de masse. Moins on a de niveaux d'écart au-dessus ou au-dessous de la moyenne acceptable, plus il y aura de produits ou services hors des limites. Inversement, plus il y aura de niveaux définis dans les limites acceptables, moins il y aura de produits ou services sortant de ce cadre. Le niveau 6, soit 6 écarts au-dessus et 6 écarts en dessous, en tout 12 niveaux, représente l'objectif d'excellence et correspond statistiquement à 3,4 défauts pour 1 million d'unités produites, produits ou services. Comme le Lean, le Six Sigma place ainsi la qualité et donc la satisfaction des clients au centre des préoccupations de l'entreprise avec la même exigence collaborative et la même recherche d'amélioration continue des processus et de chasse au gaspillage ne se faisant pas au détriment des conditions de travail. Il s'en détache, mais en le complétant, uniquement sur son utilisation très stricte et systématique de données statistiques et d'outils de mesure prédéterminés, indispensables à l'évaluation des situations, à l'identification et à la résolution des problèmes, et au suivi et au maintien des améliorations ainsi obtenues. Vers un même objectif, l'amélioration continue de la qualité et de la satisfaction du client, où le Lean se focalise sur le produit ou le service et sa valeur, le Six Sigma se concentre sur la réduction du nombre de défauts et des variations de cette qualité et de cette satisfaction par l'amélioration du processus et non du produit ou service en lui-même. C'est en cela que les deux méthodes combinées sont complémentaires et dans l'approfondissement d'une démarche Lean que les outils d'analyse et d'ajustement du Six Sigma viennent renforcer, matérialiser et préciser par des chiffres et cartographies des processus les efforts initiés par le Kaizen, par exemple en remplaçant l'idéal du zéro défaut, zéro délai, etc., par un plus concret et atteignable 3,4 défauts pour 1 million d'unités. Le DMAIC, un modèle en 5 phases. Le DMAIC pour Define, Mesure, Analyse, Improve, Control est le modèle de base de tout projet Six Sigma. Ces 5 étapes sont séquentielles et obligatoires. Le DMAIC, s'appuyant sur des faits et des chiffres permettant un suivi concret des actions et de leurs résultats. Define pour définir, sélection du problème ou point de réflexion et détermination des bénéfices escomptés. D1, identification et cartographie au niveau des processus à examiner. D2, identification des parties prenantes. D3, identification et affectation d'un code de priorité pour chaque besoin et exigence du patient. D4, élaboration du business case, analyse de rentabilisation. Mesure pour mesurer, traduction du problème ou point de réflexion sous une forme quantitative, évaluation de la situation actuelle, définition des objectifs. M1, sélection d'un ou plusieurs CTQ, critical to quality, ou éléments critiques, qui sera détaillé ci-après. M2, définition opérationnelle des CTQ et exigences retenues. M3, validation d'un système de mesure de chaque CTQ. M4, évaluation de la capacité actuelle des processus liés aux CTQ. M5, définition des objectifs. Analyse pour analyser. Identification des facteurs d'influence internes et externes et des causes réelles de détermination du comportement de chaque CTQ. A1, identification de tous les facteurs potentiels d'influence. A2, sélection des facteurs critiques et vitaux. Improve pour améliorer, conception et mise en place des solutions et ajustement au sein des processus concernés. I1, quantification des relations entre les différentes variables. I2, conception des actions de modification des processus en fonction des paramètres d'influence définis. I3, conduite des tests pilotes et relevé des modifications dans les résultats, ajustements. Control pour contrôler. Vérification empirique des résultats du projet. Implémentation des changements. Définition du système de contrôle à long terme pour pérenniser et sécuriser l'amélioration des performances. C1, définition des nouvelles capacités, du nouveau standard attendu pour le processus. C2, implémentation du contrôle à long terme. C'est dans les outils d'analyse, d'action, de mesure que la fusion avec le Lean va prendre tout son sens, puisqu'on retrouve plusieurs méthodes et éléments empruntés au Kaizen pour naviguer d'une étape à l'autre, et notamment concernant la définition des attentes et problèmes réels. Les 7 outils fondamentaux de la qualité. Outil 1, le QQO-QCCP. Objectif, réunir toutes les données nécessaires pour donner un système dans la phase définir, mais aussi mesurer, en aidant à construire le plan de collecte des données ou contrôler, en aidant à élaborer le plan de contrôle. Mode opératoire, QQO-QCCP, est l'acronyme des 7 questions couvrant les données essentielles de tout point de réflexion. Qui, partie prenante, interne et externe. Quoi, processus, produit, méthode, retour patient. Où, secteur concerné, lieu, département. Quand, date, durée, planning, deadline. Comment, ressources humaines, matériels, procédures. Combien, argent, temps, matériel, personnel. Pourquoi, réaliser telle action, respecter ou modifier telle procédure. Outil 2, le brainstorming. Objectif, résoudre un problème en groupe pluridisciplinaire dans une perspective d'amélioration continue, Kaizen, en recherchant en commun les causes, racines et solutions. Mode opératoire, le brainstorming se fait en 3 phases. Recherche, les participants expriment en roue libre toutes les idées leur venant à l'esprit, sans restriction ni jugement. Regroupement et combinaison des idées. Exploitation et harmonisation des idées émises. Valorisation, retenue des meilleurs, confrontation avec les réalités et exigences de l'entreprise et priorisation des applications ou approfondissement nécessaire. Outil 3, le vote pondéré. Objectif, c'est un outil incontournable. Lorsqu'un choix est nécessaire avec des données qualitatives et non ou mal chiffrées, qui s'avère particulièrement pertinent lorsqu'une décision consensuelle doit être obtenue, par exemple en début de projet pour hiérarchiser les priorités ou dans la phase améliorée pour déterminer quelle solution retenir ou rejeter lorsque plusieurs sont possibles. Mode opératoire, le vote pondéré peut être multicritère. Chacune des causes est pondérée en fonction de 2 critères. La gravité, la fréquence et le poids relatif de chaque cause est obtenu par la multiplication des poids attribués à chaque critère. Ou simple, chaque membre du groupe choisit les causes les plus importantes à ses yeux et les classe par ordre d'importance décroissante, puis additionne le total des points pour chaque cause relevée et en retient l'option ayant obtenu le score le plus élevé. Outil 4, le diagramme d'Ishikawa ou diagramme en arête de poisson. Objectif, identifier les causes profondes d'un effet donné. problèmes à résoudre ou opportunités à développer autour des 5 M que sont la matière, le milieu, le matériel, la méthode, la main-d'œuvre. Cet outil a été traité plus en détail dans notre précédent article sur le Kaizen et ses outils d'analyse. Outil 5, le diagramme de Pareto. Objectif, hiérarchiser les causes multiples d'un problème en se fondant sur le principe de Pareto dit 80-20, qui postule que 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est la première étape de schématisation de la démarche d'amélioration continue prônée tant par le Lean que par le Six Sigma et un outil simple et clair de suivi des effets des changements. Formellement, il a également été traité dans notre article précédemment cité sur le Kaizen et ses outils. Pareto, motif insatisfaction client, pansement défectueux 5, accueil 11, rendez-vous trop loin, 23. Retard, 24. Douleur, 9. Tarif, 4. Outil 6, la feuille de collecte des données. Objectif, déterminer dès la phase mesurée les données qui seront nécessaires au suivi des résultats et élaborer les outils en amont et non une fois les résultats mesurables. Mode opératoire, la feuille de collecte des données doit rendre compte, outre des données elles-mêmes, de l'objectif de cette collecte de données, autrement dit, d'où, quand, comment et pourquoi effectuer ces observations en fonction du projet afférent. Outil 7, le diagramme de flux. Objectif, schématiser et clarifier les processus concernés pour développer la compréhension commune des procédures appliquées. Mode opératoire, décrire les actions successives du processus à traduire en diagramme en ne conservant que les étapes constantes, répétables et habituelles et en liant à chaque étape la raison de son existence afin de donner une vision claire et logique tant du déroulé que du pourquoi du dit processus. La collecte de la voix du patient, CTQ, QFD et CANO. La réussite des phases définir et mesurer du DMAIC dépend de plusieurs éléments, dont le plus essentiel étant appelé en management la VOC pour voix du client ou ici la voix du patient. Le management Lean comme le Six Sigma étant basé sur la qualité définie par la valeur finale attribuée par le destinataire au produit ou service, le patient, il est donc essentiel de savoir recueillir mais surtout formaliser cette voie. Le CTQ, Critical to Quality, que nous avons évoqué plus haut, correspond aux éléments centraux non négociables. La voie du patient est dite CTQ externe et peut se formaliser sous forme de diagramme CTQ à 4 entrées. Besoin, lister le ou les besoins du patient sur le point à l'étude. Attente, associer les attentes afférentes aux besoins. Exigence, définir les compétences et qualités nécessaires à la satisfaction du besoin et des attentes. Spécification, lister les caractéristiques spécifiques relatives à chaque exigence. Le QFD, Quality Function Deployment, ou fonction de déploiement de la qualité, est un modèle structuré qui va permettre de relier le CTQ client ou patient avec les moyens et processus disponibles afin de prioriser et hiérarchiser les éléments à revoir ou modifier. Le CANO va, quant à lui, ajouter à cette analyse une dimension qualitative centrée sur la complexité des nuances dans l'exigence des clients ou patients. Noriaki CANO, son initiateur, relève qu'il faut tenir compte du degré réel d'exigence pour chaque CTQ, la présence de l'un pouvant être satisfaisante, mais son absence pas forcément rédhibitoire et inversement. Il s'agit surtout de hiérarchiser les éléments participants à l'expérience étudiée pour éviter de déployer moyens et énergie sur des éléments secondaires alors qu'on n'a pas résolu les points réellement cruciaux. Plus clairement et pour simplifier, il est inutile de perdre 2 heures de réunion pour discuter de la musique ou des magazines en salle d'attente si le problème principal est que celle-ci est sale. Dans un questionnaire Cano, la collecte des données relatives aux attentes du patient doit donc se faire de façon fonctionnelle et dysfonctionnelle, c'est-à-dire avec et sans l'élément investigué, afin de distinguer ce qui est agréable de ce qui est indispensable. Ce qui ne signifie pas que le moins important ne doit pas être traité à terme, mais simplement qu'il ne doit pas être traité avant ou mieux que l'obligatoire, ni servir de pis-aller au traitement de problèmes plus graves. La collecte des données. Dans les trois premières phases du DMAIC, un des éléments primordiaux que nous avons évoqués est le plan de collecte des données. Qu'il s'agisse de la voix du patient, de celle des collaborateurs à recueillir ou de prospection, suivant le problème ou point d'intérêt étudié, il est important de définir là où les sources, ainsi que la durée, les modalités et la fréquence de la collecte, de s'assurer d'un échantillonnage représentatif et de structurer les données recueillies elles-mêmes en fonction d'une problématique et d'une utilisation concrète dans le projet DMAIC. Cette collecte n'est ni anecdotique ni superflue et doit être une étape mobilisant sérieux et vigilance. Certaines sources d'erreurs sont courantes, mais peuvent être tempérées. Sources d'erreurs, planification et interprétation. Erreurs possibles, définition inadéquate des concepts à évaluer et ou de la population concernée. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs. Vérifier que les concepts et la population source des données sont définis précisément et préalablement. Assurer la cohérence entre les concepteurs de l'enquête, les détenteurs des données et les destinataires des résultats. Source d'erreur, sélection de l'échantillon. Erreur possible, échantillon non représentatif ou biaisé. Patient satisfait interrogé pour un motif d'insatisfaction. Population sans enfants pour une étude d'odontologie pédiatrique. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs. Structurer la sélection de l'échantillon. Vérifier les doublons et ou les absences. Source d'erreurs, méthode d'enquête. Erreur possible, méthode inappropriée, comme un très long questionnaire adressé par courrier, une enquête téléphonique aux heures de repas. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs. Tester la méthode sur un micro-échantillon assez représentatif avant déploiement plus important. Source d'erreurs, questionnaire. Erreur possible, trop long ou trop compliqué, ou ne couvrant finalement pas les points clés, ambigu, mauvaise mise en page ou présentation. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs, ne pas négliger la forme, l'attractivité, le visuel. Règle d'or, une phrase, une information, une phrase. Source d'erreur, observateur, réceptionnaire. Erreur possible, réponse mal saisie ou mal comprise, surinterprétation, incompréhension. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs, former les observateurs, soigner la clarté des réponses possibles. Source d'erreur, répondant. Erreur possible, refus, gêne, oubli, langue de bois, conflit d'intérêts, préservation des intérêts personnels. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs, garantir la confidentialité et ou l'absence de répercussions, graduer l'importance des questions pour mettre en confiance avec des questions plus anodines, expliquer l'intérêt du questionnaire et le pourquoi de l'enquête. Source d'erreur, traitement des données. Erreur possible, erreur dans la saisie, la codification, l'édition, la conservation, l'utilisation des données. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs, former le personnel de saisie, utiliser matériel et logiciel fiables et suffisamment puissants, tester, monitorer la cohérence des données au fur et à mesure. Source d'erreurs, estimation et projection. erreurs possibles, mauvaise pondération des variables, erreurs de calcul dans les estimations et projections. Réponses pouvant permettre de minimiser ces erreurs, ne pas s'improviser statisticien, former les personnes en charge de ces collectes et interprétations ou faire appel à des professionnels. Les principales données et statistiques. Les données sont l'ensemble des éléments d'information utilisés pour dresser des statistiques qui sont donc, pour simplifier, la combinaison et l'interprétation des données pour en tirer des tendances, prédictions ou vérifications chiffrées. On distingue les données qualitatives, non numériques et désignant le plus souvent des catégories ou appréciations, satisfaction, couleur, des données quantitatives, mesurables et numériques. Ces dernières peuvent être dites discrètes, dénombrables et limitées, mais pas nécessairement chiffrées, ou continues, chiffrées et pouvant prendre un nombre infini de valeurs. Un intervalle désigne l'égale distance entre deux mesures. Données qualitatives, type de données, catégorie, appréciation, définition, non dénombrable, référentiel, exemple, juste, faux, conforme, non conforme, couleur. Données quantitatives, discrètes, type de données, données nominales, catégorie sans ordre. Définition, les données n'ont qu'un nom, mais sont dénombrables et limitées, sans être ordonnées. Exemple, les rues d'une ville, le genre. Type de données, données ordinales, catégorie avec un ordre. Définition, les données ont un ordre, mais il ne s'agit pas d'une échelle numérique et l'intervalle entre les données n'est pas significatif. Exemple, très bon, bon, moyen, faible, très faible. Type de données, données numériques. Définition, les données peuvent prendre une valeur numérique, mais restent limitées et dénombrables. Exemple, jour 1, jour 2, semaine 1, semaine 2. Données qualitatives continues. Type de données, données de mesure. Définition, les données peuvent prendre un nombre infini de valeurs numériques. Exemple, poids, taille, longueur, durée, volume. Les statistiques descriptives ou prédictives utilisent ces données pour observer ou prédire le comportement d'une population ou d'un échantillon, le résultat d'un processus, et mettre en lumière des anomalies, déviations ou aberrations dans ces comportements ou résultats. Elles sont indispensables au suivi des effets d'un projet DMAIC. Les statistiques les plus utiles et les plus utilisées sont la moyenne, tendance centrale de l'ensemble des données, obtenue en additionnant l'ensemble des variables et en divisant le résultat par le nombre d'éléments observés. La médiane, parfois plus significative que la moyenne, surtout pour le repérage d'anomalies. Il s'agit de la valeur qui sépare l'ensemble des données en deux groupes de même effectif. Le mode, valeur la plus représentée. L'étendue, écart entre la plus petite valeur et la valeur la plus élevée. L'écart type, moyenne des écarts entre chaque valeur, et la variance, répartition des données par rapport à la moyenne. Par exemple, à la question « Combien de fois vous êtes-vous rendu chez le dentiste en 2017 ?» Imaginons un échantillon de 5 réponses. 2 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois. La moyenne est de 6,6 visites au cabinet sur cet échantillon. La médiane est à 4 visites, puisque 3 personnes sont allées 4 fois ou moins chez le dentiste et 3 personnes 4 fois ou plus. Le mode est de 2 visites. L'étendue du nombre de visites est de 13, entre 2 et 15, etc. L'écart type et la variance sont des mesures importantes mais plus ardues à appliquer tant la formulation est plus lourde et qui doivent être confiées à des personnes formées et compétentes. Quelles que soient les mesures et leurs objectifs, il est important d'éviter au maximum les erreurs courantes de biais, de précision ou d'exactitude qui peuvent notamment être limitées par un soin particulier apporté à la répétabilité, application d'une même méthode de mesure par le même observateur dans les mêmes conditions et sur une période limitée, et la reproductibilité, application de la même méthode de mesure par plusieurs observateurs usant des mêmes instruments dans les mêmes conditions et sur des périodes similaires et limitées. La systématisation de la collecte des données est ainsi primordiale. Même question, même point de départ pour le calcul d'une durée, même démarche. La cartographie des processus. Cartographier précisément les processus soumis à une démarche d'amélioration continue permet de segmenter l'ensemble des gestes et éléments intervenant dans le processus en cause et ainsi d'identifier ce qui peut être amélioré, puis d'ajuster, corriger ou modifier avec précision les points sujets à amélioration. Les deux cartographies les plus courantes sont de type logigramme simple ou en flux fonctionnel croisé complexe. Le logigramme consiste en la représentation schématisée et linéaire des différentes étapes qui constituent le processus avec un début et une fin et un résultat attendu. Le diagramme en flux fonctionnel croisé, plus adapté au processus complexe et faisant intervenir divers services et personnes, décompose les parties prenantes et les responsabilités de chacun, ainsi que l'ensemble des outputs, éléments de sortie et résultats attendus. Le diagramme en flux fonctionnel croisé peut intégrer plusieurs logigrammes. Pour prendre un exemple simple, étape existante, début, réunir les ingrédients. Étape, préparer la pâte. Étape, ajouter la garniture. Étape, placer la pizza au four. Boîte de questionnement, le four est-il chaud? Oui. Étape, cuire 20 minutes. Fin, sortir la pizza du four. Boîte de questionnement, le four est-il chaud? Non. Étape, préchauffer le four à effectuer plus tôt. Point d'amélioration, étape manquante, préchauffer le four à effectuer plus tôt. Objectif, obtenir une pizza pouvant être mangée. Logigramme, processus préparation d'une pizza, ovale, début, fin, rectangle, étape, losange, boîte de questionnement. Diagramme en flux fonctionnel croisé, vente d'une pizza. Partie prenante, client, hôtesse, caisse et service, pizzaiolo, responsable achat. Client, début, commander une pizza. Étape, payer. Fin, emporter une pizza. Hôtesse, caisse et service. Étape, noter, commande, transmettre en cuisine. Pizzaiolo, étape, préparer la pizza. Hôtesse, caisse et service, encaisser, remettre la pizza. Client, emporter la pizza. Responsable achat, gestion des stocks et des courses, ingrédients. Pizzaiolo, préparer la pizza, logigramme. Hôtesse, caisse et service, encaisser, remettre la pizza. Client, emporter la pizza. La chasse aux démons du Lean, Mudas, gaspillage, Muris, surcharge et Muras, irrégularité. Les statiques et cartographies de processus servent concrètement l'objectif final du Lean Management, cohérent avec la démarche Six Sigma, qui consiste à traquer et éliminer les trois démons objets des chantiers Kaizen comme des projets DMAIC. Les Mudas, toutes les activités consommant des ressources matérielles comme le coût ou le matériel ou immatériel comme le temps ou l'énergie, sans apporter de valeur aux produits ou services, la valeur faisant toujours référence à celle que lui accorde le client. Les MURIS, la surcharge d'activités ou d'exigences par rapport aux moyens disponibles, moyens financiers, mais également techniques, humains, logiciels. Les MURAS, les à-coups, coupures de rythme ou irrégularités dans la délivrance du processus ou du résultat. Ces trois démons sont interdépendants et la plupart du temps, s'attaquer au Mudas permet de repérer et d'éliminer les deux autres démons. L'irrégularité, par exemple, naît souvent d'incohérence dans la gestion des processus, puis devient cause de surcharge de travail momentanée qu'on va compenser par de nouveaux gaspillages de ressources pour parer au plus pressé, etc. Les principaux Mudas peuvent être classifiés en cette catégorie, qui fonctionnent aussi bien pour la production d'objets concrets que pour les entreprises de services ou les systèmes administratifs. Source de gaspillage, Muda, inventaire, production, stock inutile de matières premières ou pièces détachées, entreprise de services, accumulation de dossiers non traités, système administratif ou d'information, surabondance d'informations inutiles ralentissant le traitement. Source de gaspillage, Mudas, excès de production, production, production en surnombre ou trop tôt, entreprise de service, production en avance de documents non traités immédiatement, système administratif ou d'information, surabondance d'emails non lus par leur destinataire ou générant des réponses à traiter sans intérêt. Source de gaspillage, Mudas, retard, production, matériel non livré entraînant la suspension de l'activité, entreprise de service, réunion obligatoire inutile, attente de signature de documents bloquant tout le reste du processus, système administratif ou d'information, panne informatique, étape de saisie de données inutile ou redondante. Source de gaspillage, Mudas, transport, production, déplacement de matériel d'un site à un autre, entreprise de service, transport de dossiers ou de matériel d'un lieu à un autre, archivage externe, système administratif ou d'information, procédure de sécurité redondante ou injustifiée d'un système à un autre, archivage externe. Source de gaspillage, Mudas, excès de traitement, production, surqualité, ajouter des options et fonctionnalités non sollicitées par le client, entreprise de service, production de rapports que personne ne lit, rituel sans intérêt, système administratif ou d'information, transactions inutiles, informations redondantes, fonctionnalités logicielles inutilisées. Source de gaspillage, Mudas, déplacement, production, recherche de produits perdus, entreprise de service, recherche de dossiers ou matériel perdu, système administratif ou d'information, recherche d'informations perdues, double saisie, dispersion des informations. Source de gaspillage, Mudas, défaut, production, correction d'erreurs en sortie de chaîne, entreprise de service, correction d'erreurs après service, correction de dossiers imprimés ou demande d'explication nécessaire, système administratif ou d'information, information erronée entraînant une mauvaise décision et le retraitement du dossier. L'analyse de la valeur dans la démarche Six Sigma est en effet la même que celle qui sous-tend le management Lean. C'est le client ou patient, sa satisfaction, la valeur qu'il accorde au produit ou service qui détermine les objectifs et toute activité ou tout élément non reconnu ou valorisé par le client ou patient représente une dépense d'argent, de temps, d'énergie qui est superflue et ne pourra être récupérée et qui doit donc être éliminée. Leadership Lean Six Sigma. Le management Lean Six Sigma s'appuie essentiellement sur la notion d'Oshin Kanri, littéralement direction management, qui est un cycle de déploiement en cascade de politiques d'entreprise fondées sur le PDCA, plan, planifier, do, faire, check, vérifier, adjust, corriger. En Lean comme en Six Sigma, il ne peut exister de sommet coupé de sa base. Et c'est l'interaction permanente entre la hiérarchie et le terrain qui va permettre l'amélioration continue et pérenne des processus et donc des résultats. Ce concept d'Oshinkanri peut être résumé en deux diagrammes, l'un concernant le rôle du dirigeant, l'autre l'interaction entre la base et le sommet, aussi désigné processus en catchball, suivant le mouvement d'une balle de baseball rebondissant de haut en bas. En conclusion, le Lean, le Six Sigma, mais également la plupart des nouvelles méthodes de gestion d'entreprise nées du constat d'échec des schémas traditionnels dépassés par une économie en mutation et une société saturée d'exigences aliénantes et irréalistes visent tous à nuancer la notion de management et à faire du manager un leader. C'est un changement de paradigme, souvent douloureux mais salutaire, qui transcende les concepts hiérarchiques et décisionnels. Le leader est celui qui montre le chemin, mais ne se contente pas d'ordonner à ses subalternes de l'emprunter et d'attendre les résultats. Le leader est suivi sur le chemin qu'il montre en tant qu'exemple et référent, et pas seulement chef. Là où le manager a réponse à tout, le leader pose les bonnes questions et permet aux collaborateurs d'arriver eux-mêmes à la meilleure réponse. Où le manager réfléchit et décide, laissant l'exécution mécanique et prédéfinie à ses subalternes, le leader facilite le travail de ses employés et lui redonne du sens en s'assurant du consensus sur la valeur de la tâche et ses objectifs. Dans une entreprise traditionnelle, le travail est effectué parce que telles sont les consignes et qu'il faut bien payer ses factures. Dans une société Lean ou le Lean Six Sigma, le travail est le fruit d'une vision commune, dans un environnement sûr et motivant, avec au cœur la satisfaction des clients et patients, et chaque tâche est exécutée parce qu'elle est pleinement comprise et jugée utile et valable pour son propre confort de travail comme pour le résultat. Il est évident qu'un tel changement de paradigme ne peut se faire du jour au lendemain et implique une véritable révolution intérieure au niveau de la direction, une transformation de soi, avant même tout changement de méthode ou d'organisation. Une vraie communication fluide, sincère, transparente et un développement des relations et de l'attitude sont également des prérequis incontournables à la mise en place de ce type de démarche Lean et d'un véritable leadership.